Deutéronome chapitre 4, versets 32 à 40. Deutéronome chapitre 4, versets 32 à 40. Au nom de Jésus. Réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui est arrivé longtemps avant vous. Depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre, méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? A-t-on déjà entendu raconter une chose pareille? Existe-t-il un autre peuple qui ait pu entendre un Dieu lui parler du milieu du feu et qui ait survécu, comme cela vous est arrivé? Ou bien un autre Dieu que le vôtre a-t-il essayé un jour d'arracher son peuple à la domination d'un peuple ennemi en recourant à des épreuves, des miracles, des prodiges, des exploits irrésistibles et terrifiants? Non. Mais le Seigneur votre Dieu vous a arraché de cette manière à l'esclavage en Égypte, comme vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous avez eu le privilège de voir cela, afin que vous sachiez que le Seigneur seul est Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous enseigner à être obéissant sur terre. Il vous a fait voir un grand feu, et vous l'avez entendu parler du milieu de feu, parce qu'il aimait vos ancêtres et qu'il vous a choisi, vous, leurs descendants. Il vous a fait sortir d'Égypte lui-même, grâce à sa force irrésistible. Il va maintenant mettre en fuite à votre approche des nations plus nombreuses et plus puissantes que vous, et vous conduire dans leur pays pour vous le donner en possession. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur seul est Dieu, aussi bien dans le ciel et sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mettez en pratique ces lois et ces commandements que je vous communique aujourd'hui, vous et vos descendants par la suite. Vous y trouverez le bonheur et vous vivrez ainsi longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne pour toujours. Amen. Nos détracteurs, certains philosophes qui ne croient pas en Dieu, bien sûr, parce qu'il y en a des philosophes qui croient en Dieu, heureusement. Quelques grands penseurs, des personnages aujourd'hui hyper médiatiques, adulés par leurs fans respectifs, nous attaquent et nous accusent, nous les chrétiens, d'exclusivistes. Le christianisme ne convient pas à l'époque d'aujourd'hui, puisqu'on proclame que Dieu seul est Dieu. Ils nous accusent que nous serions orgueilleux en prêchant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Yahvé, l'Éternel. Et de plus, ils rajoutent dans leur argumentation, chronologiquement parlant ou historiquement parlant, le monothéisme est assez tardif, parce que le polythéisme était bel et bien avant le monothéisme, sous forme de l'animisme, par exemple, dans certains pays, jusqu'aujourd'hui. Là où on n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, il y a déjà une religion, une croyance qui était déjà là. Donc le monothéisme vient après. Et ces personnes jugent que la religion chrétienne veut imposer son diktat en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voyez-vous, avec ce genre d'argumentation assez costaud, on va dire, il faut que nous sachions bien répondre, surtout ce dimanche des voisins, qu'est-ce que nous allons faire pour l'apologie de notre foi face à nos voisins qui ne croient pas en Dieu. À première vue, le texte que nous avons aujourd'hui, pour la méditation, semblerait aussi mettre encore de l'huile sur le feu quand il dit « Vous ne suivrez pas d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui vous entourent en parlant d'Israël. Et plus loin, il dit aussi, « Ton Dieu est un Dieu à la passion jalouse. Il se mettrait en colère contre toi, il te détruirait, il te ferait disparaître de la terre. » C'était les propos que je reprends dans le texte. Alors, en entendant cela, on pourrait effectivement penser que les chrétiens tomberaient facilement dans ce que j'ai appelé au tout début du culte la monolâtrie, le refus de l'existence des autres dieux. Mais tout compte fait, nous allons voir à travers cette péricope que nous sommes plutôt des monothéistes et non des monolâtres. Si nous avons bien suivi la lecture, nous pouvons bien voir que l'Éternel, lui, ne nie pas l'existence des autres dieux. Au contraire, il lance un défi aux Israélites. « Informe-toi, je te prie sur le passé, va, demande un peu aux anciens qui étaient les dieux de vos ancêtres, les dieux d'Abraham avant de connaître le Dieu d'Israël. Informe-toi aussi sur les dieux des Égyptiens quand vous étiez esclaves en Égypte. Et que lorsque vous entreriez aussi dans la terre promise, informez-vous sur les dieux de ce pays. Forcément, vous allez être amené à côtoyer. Et étonnamment, quand j'ai préparé cette méditation, ça tombe bien le dimanche de voisin, vous allez être amené à côtoyer la population locale et même à faire des comparaisons de ton Dieu par rapport à leur Dieu. Et on le vit constamment, nous aussi, dans nos vies. Nous sommes toujours appelés à comparer. Mais aussi, il va même jusqu'à dire, va voir ailleurs si ce Dieu est meilleur que moi. Il faut oser dire cela. Cette façon de parler, c'est comme une personne qui est sûre de lui en incitant sa moitié, son épouse ou son mari à dire « Je te prends au défi, si tu trouves quelqu'un de mieux que moi, vas-y. » C'est un peu ça, non? Qui oserait dire ça? C'est risqué. Mais Dieu l'a fait. Vas-y et reviens, dis-moi qui est meilleur. C'est en quelque sorte ce que nous avons aujourd'hui. L'Éternel se vante de sa différence, telle que, est-ce qu'il y a un peuple sur cette terre? A-t-il jamais entendu la voix d'un Dieu parlant au milieu du feu? Un Dieu qui parle, contrairement aux autres dieux qui ne parlent pas. Et un Dieu ici qui parle à la description ironique, vous voyez? Ça a été repris aussi dans le psaume 115 qui disait « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre des mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne palpent pas. Elles ont des pieds mais ne marchent pas. Aucun murmure ne sort de leur gosier. » Psaume 115. Cela signifie quoi? Cela signifie que le fait d'insister que ce soit un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui marche, c'est un Dieu qui entre en relation avec l'homme. Voilà ce que ça veut dire. S'il parle, c'est qu'il veut communiquer. C'est un Dieu de relation. Et la preuve, il a combattu avec son peuple lors des expéditions militaires qu'ils ont entreprises. Il s'est battu pour ce peuple et leur a donné la victoire. Telle est la différence entre un Dieu et une idole, chers frères et sœurs. Une idole, elle peut être valeureuse, faite d'or, d'argent, ou de diamants, ou de pierres précieuses, ou de bois précieux, mais l'idole, elle est statique, elle ne bouge pas. Or, notre Dieu, c'est un Dieu. Si vous remarquez dans le texte biblique, c'est un Dieu qui est toujours en mouvement. Un Dieu qui marche, un Dieu qui parle, un Dieu qui voit. Vous avez entendu? J'ai entendu ta prière. Je vois la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Vous voyez, c'est un Dieu qui bouge. Mais les idoles, c'est toi qui dois aller vers lui. Parce que lui, il est fixe là au milieu du jardin et tu dois prendre le bus Tu dois prendre le train pour aller se courber devant lui. Vous voyez comment l'ironie qui est utilisée par l'auteur est vraiment intéressante. Telle est la différence. Et les deux premiers commandements, si vous lisez l'Exode 20, mettent bien en exergue cette idée de comparaison entre l'Éternel et les autres dieux. Voici ces commandements, je le reprends. Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi, et tu ne feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel et de ce qui est sur la terre. Les dieux que nous connaissons sont des projections de nos désirs, projections du souhait de l'homme, c'est-à-dire, je veux que tu sois un dieu qui me protège contre la maladie. C'est mon souhait, alors je vais construire un dieu pour cela. Ça, c'est l'idole, et c'est ce qui est dit ici. Les idoles sont l'expression de notre peur. Et après, on le vénère, c'est contradictoire. Par exemple, le dieu de la mer. On a eu tellement peur de la mer à l'époque, même les Israélites avaient tellement peur de la mer, puisque c'est le symbole de la mort. Alors, ils vénéraient le dieu de la mer avant de prendre le bateau. Le dieu de commerce, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est l'homme qui limite les contours de la qualification de ses soi-disant dieux en fonction de ses propres besoins. Et c'est cela la définition de ce que c'est qu'une idole. Vous voyez les jeunes disant, nous avons notre idole, tel chanteur. Ces artistes-là, ils ne sont pas libres. Ce sont ces fans qui limitent ce qu'ils veulent. Je veux que tu t'habilles comme ça. Ce sont les fans qui caractérisent. Ce sont des dieux, mais des dieux à l'image de ceux qui les vénèrent. Et la suite des 10 commandements est encore plus explicite. Tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu pour tromper. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'emprise sur ce nom de Dieu. Ce Dieu de la Bible est un Dieu que disent certains théologiens même, et je mets entre guillemets, c'est un Dieu qui est innommable dans le sens qu'on ne peut pas qualifier par nos mots, un Dieu qu'on ne peut pas décrire. Et le fait de donner un nom à une chose ou à une personne signifie que nous avons autorité sur la chose. Quand l'homme a été créé, c'est l'homme qui a donné les noms de chaque espèce. Donc c'est l'homme qui a le pouvoir sur la création. Mais au moment pour savoir qui est l'Éternel, on ne sait pas qui il est. On ne peut pas lui donner un nom parce que c'est un Dieu innommable qu'on ne peut pas nommer. On n'a pas le pouvoir sur lui. Et rappelez-vous quand Moïse avait posé la question, mais qui es-tu? Quel est ton nom afin que je puisse te présenter à ton peuple? La réponse que Moïse avait reçue n'était pas claire. Je suis. Il attendait peut-être la suite. Oui, tu es. Et c'est fini. On aurait pu dire, oui, je suis tel individu. Mais je suis. Point. Ce n'est pas une phrase, ça. Oui, ce n'est pas un nom, c'est une action. Un Dieu qui noue une relation personnelle avec celui et celle à qui il s'est révélé. Donc, dans la Bible, toutes les histoires que vous lisez à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament montrent un Dieu qui fait une alliance avec une personne. Il noue une relation avec un individu. C'est un Dieu qui entre dans la relation avec quelqu'un. Et c'est à partir de ta relation avec lui que tu vas le connaître qui il est. C'est ça le Dieu de la Bible. Tu ne le connaîtras pas au début, mais si tu acceptes de nouer une relation avec lui, ce n'est pas le pasteur qui va te dire « voici qui est Dieu ». Ce n'est pas les anciens de l'Église, c'est toi-même qui vas dire « Dieu est parce que je vis avec lui ». Vous voyez ? C'est ça le Dieu de notre Bible. Et c'est ce qui le rend unique, exclusif, et non dans le sens de rejet, comme quoi il est le seul Dieu. Non, il est unique parce qu'il est le seul à avoir cette caractère. Et si nous prenons la confession de foi, selon le symbole des apôtres, que constatez-vous dedans? Voici ce qu'il est dit, « Je crois en Dieu le Père ». Et dans cette petite phrase, tout y est, dans cette phrase. Je crois. C'est une confession de foi et donc ce qui fait la particularité de Dieu, c'est un Dieu confessé. D'abord, c'est un Dieu que je vis avec une relation avec lui. Alors je confesse après qui il est. Contrairement aux autres dieux, les gens peuvent venir vénérer, adorer, se courber devant leur Dieu, mais jamais faire une confession de foi. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des scènes rituelles païennes, mais ils font des gestes, des spectacles, des trucs extraordinaires, mais il n'y a jamais de confession de foi. Ils apportent leurs ébus, ils apportent leur, des nourritures, ils donnent tout devant leur Dieu, mais jamais ils vont dire « Tu es mon Dieu, je suis à toi ». Jamais. Mais pour nous, tout à l'heure nous allons confesser notre foi, « Je crois en toi ». Je t'appartiens, Seigneur. C'est une confession de foi. Et cette confession de foi implique une relation. Ce n'est pas juste une croyance dans l'existence d'une force ou d'une personne. C'est une relation profonde, puisque ce Dieu en qui je crois est mon Père. Je crois en Dieu, le Père. Et ça change tout dans ma façon de vivre avec lui. Car ce qui est dit au verset 40, lorsqu'il parle d'observer les prescriptions et ses commandements, c'est parce que nous sommes liés à lui que nous observons ses lois. Ces lois ne deviennent pas des poids, ces lois ne deviennent pas des fardeaux, ces lois deviennent les miennes parce qu'il est mon Dieu. Cela n'a pas de signification comme des restrictions. Parfois, quelle est notre attitude vis-à-vis de la loi? La loi, ce n'est pas une restriction, des interdits ou des tabous. Non, ce n'est pas ça la loi. La loi, ça marque une relation. Alors, il est question ici de façon de vivre avec son Dieu que nous acceptons comme notre Père. Il se porte garant de ta vie et des tiens. Et si tu crois en cela, tu ne seras pas obligé à être l'esclave, par exemple, du travail. Quatrième commandement, vous voyez, je fais une sorte de cours de catéchisme. Pourquoi respecter ce quatrième commandement? Tu n'as pas besoin de tuer ni voler pour survivre, parce que tu sais que tu as un père qui s'occupe de toi. Voilà la logique des 10 commandements. Ce n'est pas des lois pour dire « tu ne fais pas ça, tu ne dois pas faire ça ». Non. Tout est logique dans ce commandement. Alors, écoutons cette réflexion que Dieu a lancée pour nous rassurer encore plus. Est-ce à vous de me poser des questions sur l'avenir de mes enfants, dit l'Éternel, et de donner des ordres sur ce que je dois faire? Ésaïe 45, 11. Oui, il sait ce qu'il doit faire pour son enfant. Amen.